Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou que vous recevez via son réseau de 46 radios partenaires repartis dans les 8 régions du Niger. Je suis Nafissa Adam Sirfo. Le plaisir est pour moi d'animer ce nouveau numéro du forum spécial élections au Niger. Après la tenue des élections locales le dimanche 13 décembre dernier, la campagne électorale de la présidentielle premier tour couplée aux législatives du dimanche 27 décembre 2020 se poursuit activement. Le studio Kalangou, fidèle à sa mission d'information, vous offre l'opportunité de découvrir les programmes politiques de 30 candidats déclarés éligibles à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain. Le studio Kalangou se propose donc durant ses campagnes électorales de vous présenter 10 forums dans l'une des 3 langues que sont le Hausa, le Zarma ou le français, et cela à raison de 3 candidats par émission. Ce soir, ce forum spécial élections au Niger a l'honneur de recevoir M. Adani Ilo. Il est le directeur national de campagne adjoint du bureau politique PJP Génération Doubara. Nous recevons également M. Hamidou Garba. Il est directeur national de campagne du parti RPP Farila. Nous avons également invité le parti Rana qui n'a pas envoyé de représentant. Nous allons donc leur poser 3 questions, à savoir quelle est la priorité du programme de leur candidat, quelles sont leurs propositions dans les domaines de la santé, l'éducation, la sécurité, l'agriculture et l'élevage et comment ils comptent les mettre en œuvre. Merci, cher candidat, de nous avoir honoré de votre présence dans ce studio. Je commence par vous, M. Adani Ilo. Vous êtes le directeur de campagne adjoint au sein du bureau PJP Doubara, Génération Doubara. Donc, dites-nous, quel est le programme de votre parti?
Merci, madame, pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir présenter la quintessence du programme de Génération Doubara PJP. Mais avant de présenter le programme, si vous me le permettez, à Génération Doubara, nous sommes partis d'abord d'un diagnostic de la situation qui prévaut actuellement au Niger.
Quelle est donc cette situation?
Et cette situation, elle est caractérisée par 4 mots principaux. Le premier, c'est que l'insécurité, elle prévaut dans l'ensemble du pays, et particulièrement dans la région de Diffa et de Tillabéri, et elle menace même la capitale Niamey. Elle menace les fondements, la souveraineté même de cet État.
Et ça, c'est quelle base vous dites qu'elle menace la souveraineté de l'État?
Parce que vous avez des menaces qui sont partout, des attaques qui prévalent jusque dans les chefs-lieux de département. Et nous savons que la situation est telle que toutes les informations montrent que les mouvements ont l'intention de frapper même à l'intérieur des grandes villes. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est qu'il y a, malgré, nonobstant les efforts qui ont été faits par les gouvernements successifs, parce que nous reconnaissons tous les acquis de tous les gouvernements successifs, nonobstant cela, la pauvreté est là. Elle est présente dans tous les foyers au Niger et elle touche même les travailleurs, ceux qui travaillent. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième, c'est que la corruption est devenue endémique au niveau du Niger. Le quatrième axe, c'est que les secteurs sociaux sont en déliquescence. L'école, il y a une crise scolaire et universitaire qui est sans précédent. Il y a un système de santé qui peine à répondre aux attentes de la population. Voilà, en gros, il y a d'autres mots. Mais pour nous, il y a ces mots-là. Donc, nous sommes partis de ce diagnostic-là. Et nous nous disons que malgré ce qui a été fait, si la solution n'a pas été trouvée, c'est que le problème se situe quelque part.
Et donc, en gros, quels sont les grands axes de votre programme ?
Alors, les grands axes de notre programme, ils procèdent de ce constat-là. Et nous avons bâti un programme qui a 7 domaines de priorité et 21 engagements.
Et quels sont ces 7 axes ?
Les 7 axes domaines d'action de notre programme. Le premier, c'est celui de garantir la sécurité et bâtir une paix durable. Le deuxième axe, c'est qu'il faut réformer les institutions et moderniser l'administration. Le troisième axe, c'est qu'il faut diversifier le potentiel économique. Il faut repenser l'économie pour développer des pôles régionaux économiques au Niger, du Niger, parce que le développement a été très centralisé, mais j'y arriverai donc à ce niveau-là. Le quatrième, c'est qu'il faut créer un État solidaire. Le cinquième, il faut rebâtir un système éducatif qui soit performant. Et le sixième, c'est repenser le cadre de vie. Le cadre de vie à la fois urbain, à la fois rural.
Voilà.
À la fois vu en termes d'aménagement du territoire, aménagement urbain, etc. Et le septième axe, il porte sur la politique extérieure et la diplomatie.
Et parmi tous ces 7 axes, quelle est la priorité ? Quelle est votre plus grande priorité ?
Notre première priorité, notre priorité des priorités, c'est la sécurité. Parce que nous allons du principe qu'on ne peut pas faire de développement dans un contexte d'insécurité. On a un deuxième, c'est aussi celui de la lutte contre la corruption.
Monsieur Hamidou Garba, vous êtes le directeur national de campagne du parti Farilla. Vous représentez le président Alma Oumarou, président d'ailleurs du dit parti. Présentez-nous le programme de votre parti.
Bien, merci madame. Au niveau du RPP Farilla, le programme est assez costaud, mais je veux maintenir aux priorités comme vous le dites.
Oui.
La première priorité pour nous au niveau du RPP Farilla, d'abord, c'est le développement du capital humain. Parce que pour nous, toute action humaine, toute œuvre humaine ne peut être concluante, ne peut réussir que si l'homme qui est chargé de mettre en exécution cette activité est vraiment un homme de qualité. Quand on parle du capital humain, effectivement, nous allons parler de l'éducation de la population. Et on a constaté qu'au niveau même de la société nigérienne, un abandon se manifeste. L'enfant est laissé à son propre sort et que c'est la rue qui éduque de plus en plus nos enfants. Or, nous sommes d'une génération antérieure. Nous savons très bien comment est-ce que la société nous a aidés à être ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est le chacun pour soi et Dieu pour tous. Nous avons compris également dans certaines sociétés impérialistes de l'époque, il a été annoncé que pour détruire un pays, il ne suffit plus de prendre les armes. On passe toujours par la destruction de son éducation et de sa culture.
Donc l'éducation...
L'éducation, c'est le maître mot. C'est ce qui doit être au centre, en tout cas, du développement humain. Mais comment éduquer une personne qui n'est pas en bonne santé ? Je pense que la santé doit être de mise. Il faut que nous revoyons un peu la couverture sanitaire de notre pays. Des efforts ont été faits, mais qu'il faut renforcer. Et je me rappelle encore, dans les années 2000, il y a eu une expérience qui a été faite au Niger, où des secouristes au niveau de nos villages avaient été recrutés et essayaient d'être formés au niveau des centres de santé, enfin des écoles de santé du Niger, pour qu'ils puissent servir dans les villages. Parce que ce n'est un secret pour personne, qu'aujourd'hui, nos villages ne sont pas pourvus de système de santé. Donc, le système de santé est organisé à un certain niveau où les villages semblent être abandonnés. Donc, il faut réorganiser tout ça là pour que les communautés de base puissent en tout cas prendre leur question de santé en main. Nous avons le civisme. Aujourd'hui, le Nigérien n'est pas tellement préoccupé par son développement à lui-même et pire encore pour le développement du pays. Tout le monde attend. Là, il faut qu'on arrive à inculquer aux Nigériens que seul le travail peut conclure et nous amener à un développement. La deuxième priorité, c'est la gouvernance. Madame, aujourd'hui, tout le monde sait que la politisation est pénétrée, est rentrée dans nos écoles. La politisation est rentrée dans l'administration. Tout ça là, c'est un combat qu'il faut faire pour dépolitiser notre école, pour dépolitiser notre administration. Il y a la corruption qui est devenue endémique. Tout à l'heure, Dani l'a dit, la corruption est devenue endémique. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas les moyens, des fois, vous n'êtes pas écouté. Donc, au niveau des peuples forêts là, en tout cas, c'est sans embâge et sans faiblesse, on va combattre cette corruption.
Oui.
Mais il y a aussi le mérite.
Le mérite.
Vous voyez, dans notre administration aujourd'hui, il suffit d'être politicien pour gravir les échelons. Quel que soit votre mérite, quel que soit votre diplôme, des fois, vous êtes là, aigri, on vous abandonne. Ce n'est pas normal. L'occupation des postes de responsabilité doit être, en tout cas, soumise à un mérite. Celui qui mérite son poste, il faut qu'il soit là où il le faut pour prendre sa responsabilité. La dernière chose que je voulais dire avant d'arriver à la sécurité, mais il y a l'économie. Notre pays n'est pas pauvre. Notre pays est loin d'être pauvre. Nous avons beaucoup de richesses. Il suffit d'abord, au niveau rural, de transformer cette économie rurale-là. De faire en sorte que la zone rurale soit le poumon de notre économie. Après, viendront les mines, pour lesquelles, aussi, il faut que la gestion soit efficiente. Il faut qu'on regarde ce qui se passe réellement pour que ce soit bénéfique pour notre pays. Mais tout ça, peut-on le faire dans un pays qui n'est pas en sécurité? Tout à l'heure, Adana a assez développé, certainement, bon, il va revenir là-dessus aussi.
Oui, oui.
La sécurité, ça là, c'est indiscutable.
Autant de priorités pour nos deux partis présents dans ce studio. Nous avons donc entendu leurs priorités. Et à présent, nous allons voir avec eux ce qu'ils prévoient secteur par secteur. Nous allons commencer par l'éducation. Et selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, les projections montrent que la population en âge d'entrée en première année du cycle fondamental CI devrait atteindre plus d'un million d'enfants chaque année d'ici 2030. Contre environ 400 000 enfants en 2001. Et si l'État nigérien veut accueillir tous ses enfants rien que pour la CI, il va falloir construire 10 000 nouvelles salles de classe et recruter autant d'enseignants qualifiés. Monsieur Adani Ilo, vous représentez le parti d'Oubara. Que comptez-vous faire de spécial pour l'éducation au Niger? Qu'est-ce que prévoit votre programme spécialement pour l'éducation au Niger?
Merci, madame. Notre programme vise à rebâtir le système éducatif, scolaire, universitaire, en le mettant en adéquation avec les véritables besoins de la population. Il faut faire en sorte que l'école débouche sur l'emploi, l'université débouche sur l'emploi. Ça ne sert à rien de former des gens juste pour les former. L'école doit déboucher sur l'emploi. Et donc, nous comptons développer, faire un enseignement qui permette du primaire à l'université, récupérer ce que certains appellent improprement le résidu du système scolaire. Mais tous ceux qui ont doivent pouvoir avoir une formation qui débouche directement sur l'emploi.
Des enseignants seront formés donc?
Des enseignants seront formés en conséquence, formés ou recycler en conséquence. Parce que nous avons un système au Niger qui est fondamentalement un système d'enseignement général qui ne mène pas beaucoup à l'emploi. Il n'y a pas de maillage entre le secteur productif et le secteur de l'enseignement. Moi, j'enseigne à l'université, mais je vois qu'il n'y a pas ce maillage-là. Ceux qui sortent même du master de l'université, ils se posent des questions où ils vont. Donc, il faut ce maillage-là. Mais il faut aussi dépolitiser l'école. Il a dit tout à l'heure, il faut dépolitiser l'école. Et ce que nous proposons, c'est que partant du fait qu'il y a eu suffisamment d'ateliers, suffisamment de séminaires, suffisamment d'études qui ont été faites dans le domaine scolaire et universitaire, ce que nous allons faire, c'est associer tous les partenaires dans la résolution de la crise scolaire et universitaire. Les partenaires, c'est qui? C'est les enseignants, c'est les parents d'élèves, c'est les étudiants eux-mêmes, c'est les syndicats et ONG qui sont autour du secteur de l'éducation et tous les partenaires. Parce qu'on ne peut pas continuer à adopter des solutions d'en haut qui ne sont pas adaptées. Donc, nous comptons, convoquer ces états généraux-là dès que, si vous nous élisez, nous allons commencer par ça.
Former donc des enseignants, associer tous les partenaires, est-ce que selon vous cela suffit pour vraiment avoir une éducation de qualité ici au Niger?
Il faut, cela n'est pas totalement suffisant.
Et qu'est-ce que vous allez mettre comme moyen?
Nous pensons pouvoir progressivement atteindre l'objectif des 20% du PIB consacré à l'éducation. Nous ne pouvons pas pour l'instant donner un chiffre qui aille au-delà parce qu'il y a des difficultés sur le système sécuritaire et d'autres domaines. Mais nous comptons aller jusqu'à 20% du PIB national. Parce qu'il faut les infrastructures scolaires, il faut le matériel didactique et il faut revaloriser la fonction enseignante. Et il faut faire en sorte que le maître retrouve ses lettres de noblesse.
Voilà.
Et il faut qu'il ait un revenu pour ça.
Merci à vous. Je rappelle que nous avons également envoyé une invitation au parti Rana, mais ils n'ont pas envoyé de représentant. Monsieur Hamidou Garba du parti RPP Farilla, quelle est la stratégie que vous prévoyez, et la stratégie en faveur de l'éducation primaire, secondaire et l'université?
Tout à l'heure, dans mon intervention préliminaire, j'avais parlé de la dépolitisation d'abord de l'école nigérienne.
Tout comme
Adani, voilà. Ce que PJP Dubara a développé ici. La question qu'il faut se poser dans notre pays, pourquoi un tel changement? L'enseignement et l'éducation dans notre pays étaient quand même très performantes. À l'époque, nos étudiants, quand ils quittent le Niger pour aller dans les autres écoles, étaient pratiquement les majeurs de leur promotion. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi change-t-on ce qui réussit? Il y a eu tellement de réformes dans ce pays, de l'éducation. Moi, je pense qu'il va falloir s'asseoir et évaluer ces réformes-là. À quoi ont-elles abouti réellement? Si ce n'est pas bénéfique pour le pays, mais autant revenir à l'ancien système.
Quels sont donc ces anciens systèmes?
L'ancien système, c'était le maître est au centre de la réussite à l'école. Le maître avait toute sa noblesse. Avant, c'était les meilleurs des collèges qui vont aller dans l'enseignement pour venir enseigner leurs petits frères, leurs petits-fils. Mais à quoi assiste-t-on? Maintenant, les meilleurs sont envoyés dans les écoles scientifiques et on prend toujours ceux qui sont vers les derniers rangs. C'est eux qui vont, deux fois, à leur corps défendant, qui sont transformés en enseignants.
Et donc, qu'est-ce que donc vous allez faire pour changer cela?
Nous, on va, l'enseignement doit être un métier noble et seuls vont entrer dans l'enseignement ceux qui ont la vocation, ceux qui ont l'amour de l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est un don de soi. C'est un sacrifice. Il n'y a pas grand-chose dedans. Mais il y a un métier. C'est un métier noble. On ne peut pas permettre à n'importe qui d'être enseignant. La moralité doit prévaloir à ce niveau-là. La responsabilité et le sens de l'honneur. L'enseignant doit être quelqu'un qui encadre, quelqu'un qui éduque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Chacun, tout celui qui va droit au chômage, se transforme en enseignant pour aller donner la connaissance. Ce n'est pas bien, c'est pas admissible.
La contractualisation donc sera...
Même elle n'est pas mauvaise, la contractualisation, mais seulement, il faudra être recruté ceux qui veulent vraiment être enseignants, pas ceux qui sont obligés d'être enseignants. Deuxièmement, le mobilier scolaire. Moi, j'étais gouverneur de la région de Niamey. J'ai vécu une situation. C'est-à-dire qu'à l'école, personne n'est renvoyé, particulièrement à Niamey. Tous ceux qui sont renvoyés par un autre canal reviennent encore à l'école. Donc, nous construisons des classes, nous construisons des tables bancs, mais on n'arrive jamais à y mettre fin. Parce que tout simplement, il n'y a personne qui part. Et ils reviennent comment? Tous les perturbateurs de l'école reviennent par un autre canal pour s'inscrire à un âge très avancé. Ils sont là et ils n'étudient pas. Tout ça là, il faut qu'on arrive à y mettre fin. Mais je pense que, tout à l'heure, Adani l'a dit, entre les mots, que les états généraux de l'éducation s'imposent. À partir de ce moment-là, la nation nigérienne va décider de quel est le taux du budget qu'il faut affecter à l'éducation. Parce qu'on n'a pas le droit d'échouer en éducation. Mais imaginez-vous, aujourd'hui à l'université de Niamey, les étudiants sont transportés comme des sardines. Comment à ce niveau, où la personne est à un pas de l'occupation ou bien d'une mission de responsabilité d'État, et ce monsieur est traité comme vraiment n'importe quel individu sur ce machin-là. Je pense que quand on franchit les murs, les portes de l'université, on doit déjà leur apprendre à se préparer pour l'avenir.
Donc, évaluer les différentes réformes du secteur éducatif, recruter des enseignants motivés, ce sont là les grandes propositions pour l'amélioration du secteur de l'éducation proposées par nos différents candidats. Parlons santé à présent dans le plan de développement sanitaire PDS 2017 à 2021 du Niger, il est dit que l'un des défis majeurs auxquels notre système de santé fait face est celui d'offrir à la population des prestations de qualité dans un esprit d'équité et d'esprit social. Je reste toujours avec vous, M. Hamidou Garba du parti Farila. Comment votre parti compte relever ce défi?
Vous savez, la question de la santé, c'est une question globale qui concerne prioritairement d'abord les communautés. Je l'avais tout à l'heure que nous pensons en tout cas impliquer la communauté de base dans ce combat pour la santé de nos populations. Aujourd'hui, le Niger n'a pas tous les moyens de couvrir l'ensemble du territoire national. Par conséquent, je pense que au moins les premiers secours peuvent être organisés au niveau de nos villages et campements. Quitte à ce qu'au niveau peut-être département, qu'il y ait des centres de santé, même si c'est le type 1, pour prendre en charge ceux qui sont évacués vers les centres de santé de secondaire. Pour ça, chaque communauté, chaque commune doit en tout cas recruter au niveau de la commune des agents de santé que l'État va se donner le devoir de former et qu'ils soient réinjectés de l'autre côté. Deuxièmement, il y a une expérience actuellement que le ministre sortant, Menassara, a eu à faire, que moi je salue parfaitement.
Et quelle c'est cette expérience?
C'était le fait de remettre en selle les CSI. Quand parce que les centres de santé intégrés sont abandonnés. À partir de midi, 13h, il n'y a plus de personnel. Mais Menassara a pu quand même faire en sorte que les CSI soient les premiers centres qui reçoivent les malades avant d'être référés aux grands centres. Sinon, comment peut-on comprendre que pour un mal de tête, on se retrouve à l'hôpital national de Niamey?
Et vous allez adopter ce système aussi?
On va le parfaire. On va essayer de s'imposer pour que tous les centres de santé puissent être opérationnels H24 à la disposition de la population. On va faire en sorte que les médicaments ne puissent pas manquer. Aujourd'hui, les médicaments génériques ont montré quand même leur importance. Mais pourquoi, bon sang, on va faire payer à nos populations des ordonnances qui font éclater la tête quand quelqu'un n'a pas les moyens? Donc, il faut que nos sociétés de fabrication des médicaments, qu'on puisse réellement les renforcer pour quand même produire des produits accessibles à la population, pour que dans tout un village qu'il y ait ces produits-là. Les personnels qui croient que le Niger se limite à Niamey, quand on affecte des gens, ils ont toujours cette magie de vouloir revenir à Niamey. Ça, nous allons y mettre fin. Il faut que les Nigériens comprennent que le Niger, ce n'est pas seulement Niamey, et qu'on doit servir ce pays-là, partout là où la mission le commande.
Merci à vous. Donc, impliquer toute la communauté, mettre à la disposition de tous des médicaments. Ce sont là les propositions du parti Farila pour le secteur de la santé. Et il faut le rappeler que selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, on dispose en moyenne dans le monde de 13 médecins pour 10 000 habitants, avec d'importantes variations entre les pays et les régions. Et en Afrique, par exemple, il n'existe qu'en moyenne 2 médecins pour 10 000 habitants selon l'OMS. Et au Niger, particulièrement selon le gouvernement, le nombre de médecins est passé de 350 en 2010 à environ 1400 en 2018, ce qui en termes de ratio équivaut à un médecin pour plus de 15 000 personnes. Monsieur Adani, comment comptez-vous faire pour vraiment améliorer le secteur de la santé au Niger?
Merci madame. Améliorer la santé au Niger, c'est améliorer le système de santé. Parce que nous avons un système de santé qui peine, parce qu'il a des difficultés à répondre aux attentes de la population. Parce que c'est un système qui répond aux urgences. Et un système de santé qui est constamment orienté en fonction de l'apparition de pandémies ou d'épidémies nouvelles.
Et justement, surtout avec cette pandémie de la
COVID-19. De la COVID-19 et qui nous pompe beaucoup de ressources et qui fait que nos centres de santé sont davantage surchargés aussi par cela.
Et que prévoit votre programme pour ce secteur?
Donc nous, on prévoit qu'il y ait un système de santé qui véritablement soit centré sur les grandes épidémies, les grandes maladies comme le paludisme qu'on a tendance souvent à mettre de côté à la faveur souvent de nouvelles épidémies. Il faut faire en sorte que notre système de santé ne soit pas un système d'urgence, ne soit pas un système de sapeurs-pompiers qui intervient constamment et qui met toute son énergie quand il y a quelque chose qui apparaît. Donc, et pour ça, il faut que décentraliser, comme il l'a dit, il faut déconcentrer les structures. Il ne faut pas que toutes les structures soient concentrées à Niamey, Zender ou Maradi. Il faut décentraliser.
Vous c'est allez un, le faire.
Le deux, nous allons le faire. Nous allons créer les conditions pour que le travail, comme il l'a dit tout à l'heure, pour que le travail à l'intérieur du pays soit valorisé. Et il faut, donc ça, il faut recruter davantage. Vous avez dit, le ratio que nous avons en matière de santé, il est pénible, il est insignifiant. Et pour le faire, il faudrait que nous formions et que nous recrutions davantage. Nous allons accroître le recrutement des infirmiers, des médecins. De deux, il faudrait
et
également...
à peu près combien ? Des centaines de milliers de médecins ?
Des centaines de milliers, ça dépend. Est-ce que nous avons des centaines de milliers même de médecins au Niger ? On ne les a pas. Nous allons faire
former,
le diagnostic,
mais
nous allons les former, les spécialiser, parce qu'on a besoin, il y a beaucoup de spécialités que nous n'avons pas, et qui fait que nous dépendons beaucoup de la coopération internationale, souvent, pour faire face à cette... Regardez au niveau de l'hôpital de référence. C'est un bijou qui est fait, tout, mais il y a beaucoup de spécialités que nous n'avons pas. Il faut que nous arrivions à produire au Niger un certain nombre de médicaments essentiels. Il faut développer la capacité de production des médicaments au Niger.
Et qu'est-ce que vous allez faire pour cela ? Vous allez mettre en place une usine ?
Nous allons mettre en place, pas une unité, des unités pour la fabrication des médicaments essentiels, pour faire en sorte que les médicaments soient accessibles à la population à un moindre coût. Et pour lutter contre les pharmacies qu'on appelle par terre, parce que les gens n'ont pas les moyens d'acheter les médicaments.
Et selon vous, pourquoi vraiment depuis ce temps, cela n'a pas marché au Niger ? Pourquoi l'on n'a pas fait cela jusqu'à présent ?
Bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut qu'on repense notre système, notre organisation politique. Cela n'a pas été fait parce que, tout simplement, le système de gouvernance au niveau du Niger n'est pas très associatif, en ce sens que c'est l'État, c'est les dirigeants seulement qui dictent des mesures. Ce que nous allons faire, c'est instaurer un système de gouvernance qui soit collégial et qui demande à chaque partenaire dans tel domaine. On fait les États généraux. Et on associe les partenaires à toutes les décisions.
Merci à vous. Nous passons donc à l'agriculture, au secteur agriculture et élevage. La déclaration de Maputo préconise aux États membres de la CEDEAO d'investir au moins 10% des budgets nationaux dans l'agriculture et d'allouer 30% de cette part à l'élevage. Et au Niger, la part du budget 2021 allouée au secteur de l'agriculture est de 4,3% et il était de 3,6% dans le budget 2020. Monsieur Hamidou Garba, dites-nous, qu'est-ce que votre président compte faire pour appuyer le monde rural, une fois élu?
Bien, merci. Effectivement, dans son message de campagne, il a précisé que l'économie rurale, l'agriculture, le monde rural doit être refondé. Quoi faisant? Actuellement, madame, nous luttons toujours pour l'autosuffisance alimentaire. Or, la nature nous a tout donné. On a 1 267 000 km² de superficie, le Niger, occupé à peine à 50%. Nous avons une population majoritairement jeune, 85% à peu près. Nous avons les ressources du sous-sol qui sont assez importantes à nous. Et nous avons le soleil qui nous brûle et qui est, par hasard, une énergie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous freine de pouvoir utiliser tout ce potentiel-là pour développer l'agriculture au Niger? Pourquoi doit-on attendre les 3 mois d'hivernage hypothétique pour dire que nous allons cultiver? Pourquoi est-ce que les 9 mois, on ne peut pas aller vers les cultures maraîchères? Il a été démontré que même le mil et le maïs peuvent bel et bien germer avec l'irrigation.
Et qu'est-ce que vous allez faire?
Nous allons en tout cas essayer d'imposer à chaque commune du Niger d'avoir un champ communautaire, en tout cas à la charge de la commune, pour pouvoir booster la production agricole dans notre pays. Comme ça, avec les chambres régionales d'agriculture, il y aura un échange qui n'est pas monétaire, mais qui est en vivre, pour que tous nos marchés soient, en tout cas, alimentés, approvisionnés en céréales, en tomates, tout ce que vous pouvez imaginer, pour que le coût baisse et que le panier
soit
de la ménagère
oui, soit...
ne soit pas en difficulté.
Voilà.
Si les Nigériens arrivent à manger à leur faim, en ce moment, on peut leur demander de travailler. Mais quand on joue dans un pays, avec tout ce que nous avons comme potentiel, et avec un nombre très limité de Nigériens, on n'est que 21 millions de Nigériens. Si on n'arrive pas à manger aujourd'hui à notre faim, avec tout ce que nous avons comme potentiel, mais quand on va le faire? C'est pourquoi la réforme, elle s'impose. L'État du Niger injecte beaucoup de milliards dans l'achat des pesticides, dans l'achat des intrants, dans l'achat des je ne sais pas quoi, les appuis aux agriculteurs. Mais les terres sont fatiguées. Le paysan n'a plus les moyens. Cet appui n'arrive pas à sortir le paysan de sa pauvreté. Par conséquent, il faut que cet argent soit injecté quelque part où la production sera de grande quantité.
Et vous allez mettre tous les moyens dans ce...
Inch'Allah. La première des choses qu'il faut faire, il faut que le Nigérian mange à boire à sa faim. Il faut qu'il ait les moyens d'aller au marché, de payer ce qu'il veut manger, vraiment à un coût qui ne va pas le mettre en stress.
Beaucoup de moyens seront mis dans le secteur, dans le monde rural, pour permettre à tous de manger à leur faim, selon le parti Farila. Monsieur Adani, qu'est-ce que vous prévoyez, vous, pour le monde rural?
Notre objectif principal, c'est de faire de l'agriculture, de l'élevage, mais aussi de l'environnement, les facteurs clés du développement du Niger. Mmh. Nous avons abandonné cela à la faveur des richesses minières, etc., qui sont aléatoires et qui sont soumises aux fluctuations de coûts internationaux. Mmh. C'est de ramener
cela
au centre du village. Deux, notre objectif, c'est de faire en sorte que, à l'horizon des 5 ans, nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais nutritionnelle. Parce que la question nutritionnelle, elle est très importante, elle est plus grave parce qu'elle touche en plus les catégories les plus faibles et l'avenir du pays.
Mais qu'est-ce que vous allez faire pour atteindre cela?
Pour atteindre cela, nous avons une vision associative du pouvoir qui consiste chaque fois qu'un problème va se poser à consulter les partenaires sociaux. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes de l'agriculture sans associer les associations paysannes, des éleveurs, des agriculteurs, des pisciculteurs et tout ça, qui ont des solutions. Mmh. Et ce qui se passe, c'est que souvent, on est dans un système qui tend à greffer ou à parachuter de manière brutale des solutions dans le monde rural. Et c'est ce qui est souvent à l'origine de nos politiques. Si on demande aux gens, vous ne pouvez pas développer quelqu'un contre lui-même. Il faudrait l'associer. Il est mieux placé pour savoir ce qu'il veut.
Et concrètement, qu'est-ce que vous allez faire?
Nous allons développer une politique agricole en intelligence parfaite avec les associations paysannes. Et nous allons développer une politique agricole qui soit intégrée. Il faudrait que l'agriculture et l'élevage soient intégrés, qu'il y ait un développement intégré pour éviter les conflits qu'il y a entre les agriculteurs et l'élevage. Il faudrait développer la pisciculture au Niger. Il faudrait développer toute une série d'aspects. Et il faut revoir aussi les modes de production qui, souvent, amènent à la désertification, à l'appauvrissement de l'eau.
Et vous allez faire tout cela?
Nous allons faire tout cela.
Merci à vous. Je rappelle que nous avons également envoyé une invitation au parti Rana, mais ils n'ont pas envoyé de représentants. Plan sécuritaire depuis l'attaque kamikaze perpétrée en mai 2013 à Agadez et la première attaque de Boko Haram en février 2015 à Difa et Bosso. Le Niger fait face à une situation sécuritaire sans précédent. Étant entouré de plusieurs foyers de conflit, le Niger a vu la sécurité s'élargir sur l'ensemble du pays. D'importantes pertes en vies humaines et dégâts matériels occasionnés à ce jour, l'état d'urgence sécuritaire sévit dans 3 régions, notamment Tawa, Tillaberi et Difa. Monsieur Hamidou Garba, une fois votre président élu, comment vous comptez vraiment agir pour que tous les Nigériens vivent en sécurité?
D'abord, avant de répondre à votre question, j'aimerais m'incliner devant la mémoire de nos soldats et de nos populations civiles qui sont victimes, et en tout cas de ces attaques barbares qui ont été imposées. Que la terre de ceux qui sont morts soit légère, que la terre soit légère plutôt, et que les familles puissent vivre dans la paix et accepter le sort qui leur est imposé. Deuxièmement, madame, le secteur de la sécurité n'est pas un jeu. Nous, si le RPP Farilla arrive au pouvoir, ce sera réglé entre États. L'État du Niger va commander ce matériel militaire auprès des États qui les fabriquent pour que ce soit de la qualité et que l'armée seule est habilitée, en tout cas, à vérifier si les matériels mis à sa disposition est de bonne qualité.
Ce sera donc une situation réglée à l'interne.
À l'interne. Vraiment, c'est une affaire entre États. Deuxièmement, nos soldats. Vous savez, aujourd'hui, devient soldat qui veut. Tout le monde peut être soldat. Et à commencer par nous, les hommes politiques, qui imposons deux fois nos enfants et qui ont échoué dans la vie courante, on les amène dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie et autres là. Et à quoi on assiste? Des soldats qui ne sont pas aguerris, des soldats qui ne sont pas, prêts pour la chose.
On a vu
quand même des soldats, même en sentinelle, qui prennent leur téléphone, qui font des messages.
Et qu'est-ce que vous allez faire pour changer?
Nous allons
cela?
Empêcher tout ça. C'est-à-dire,
en quoi faisons?
Il faudra revenir le recrutement. Il faut recruter ceux-là qui veulent réellement être militaires. Madame, il m'est arrivé de constater des enfants qui veulent être militaires et qui sont refoulés. Ça, c'est eux qui veulent être. Et ils sont refoulés en faveur de ceux-là qui ne veulent pas faire l'armée. Mais parce que tout simplement, nous, les parents, nous avons la possibilité de les enrôler. On les amène, on les enrôle. Mais après, ils vont servir l'État. Comment? La guerre, ce n'est pas une affaire de blague. Quand vous êtes en face de l'ennemi, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. C'est vous et votre destin. Il n'y a que Dieu et votre professionnalisme.
Donc vous allez recruter vraiment...
Il faut vraiment recruter des soldats comme ça se faisait à l'époque. Les soldats nigériens, c'était des vains soldats. Mais nous sommes en train de détruire cette armée en nous impliquant. C'est parce que la politique également est en train de rentrer dans les rangs de nos soldats.
Donc un système d'achat de matériel interne, former, recruter des soldats vraiment qualifiés, ce sont entre autres propositions pour le secteur de la sécurité. Monsieur Adani, de votre côté, qu'est-ce que vous prévoyez pour le secteur de la sécurité?
Merci madame, je voudrais à mon tour m'incliner devant la mémoire de nos enfants et de nos militaires qui sont tombés au champ d'honneur et dire que c'est une situation qui est pénible, qui est inadmissible et qu'il faut régler.
Et comment régler?
Pour nous, la question, la crise sécuritaire au Niger, elle est nationale, elle est régionale, elle est aussi internationale. Nous avons, nous, un plan. Et vous savez, nous avons un dirigeant qui sait de quoi on parle. Salut Jibo, quand on parle de la sécurité. Nous avons un plan à trois paliers pour résoudre la question de la sécurité. Le premier niveau, c'est le niveau national, où il faut conjuguer l'action militaire avec l'action de la lutte contre la pauvreté.
C'est-à-dire,
l'action militaire, elle consiste à réarmer notre armée à travers des équipements, à travers la formation. Mais cela, on ne peut le faire que si on audite le ministère de la Défense. Parce qu'il l'a dit tout à l'heure, ce qui s'est passé est inadmissible. Il faut d'abord auditer ça et faire en sorte qu'on revoie tout notre système d'achat d'armement, de formation, etc.
Donc vous voulez dire que vous allez vraiment former, recruter...
Et auditer le ministère. Absolument. D'accord. Ça, c'est un. Le deux, il faudrait que la lutte contre le terrorisme, c'est aussi la lutte contre la pauvreté. Ce qui fait que souvent des jeunes vendent leur vie pour 300 000, pour une moto. Donc, c'est la conjugaison de ces deux choses. Ça, c'est au niveau national. Au niveau régional, il faut arriver à mutualiser les moyens parce que la question sécuritaire au niveau du Sahel, elle touche tous les pays du Sahel. Donc, il n'y a pas de solution individuelle au niveau d'un État. Et les forces terroristes, individuellement, ont plus de moyens que nos États individuellement pris. Donc il faudrait arriver à mutualiser les moyens. Il faudrait arriver à opérationnaliser la force conjointe du G5 Sahel pour faire en sorte que nous ayons une capacité au niveau sur-régional de répondre aux questions. Troisièmement, au niveau international, il faudrait voir et auditer tous les accords internationaux qu'on a pour les adapter à la situation qui est la situation présente ici. Parce que le terrorisme, c'est aussi une question internationale. Et aujourd'hui, on vous aide que pour autant qu'on ait intérêt à vous aider.
Autant donc de propositions, beaucoup de défis que vous allez relever. Mais ma dernière question à vous deux, chers invités, c'est de savoir pourquoi vraiment des constats aussi amers sur la situation actuelle. Pourquoi vraiment ça n'a pas marché selon vous, monsieur? Je vous donne la parole en premier.
Et moi, je ne passerai pas par quatre chemins pour vous faire comprendre, madame, que c'est l'État qui a cessé d'exister. Au Niger, il faut que l'État revienne avec toute sa force. Aujourd'hui, nos États, depuis l'avènement de la démocratie, sont des États faibles. Parce que tout simplement, quelque part, les décisions sont prises en inadéquation avec les attentes de la population. Qui tient le bout du fil? C'est pourquoi il faut que tout revienne au niveau de l'État. Au Niger, depuis un temps, on ne sait même pas la continuité de l'État. On ne sait même pas la continuité de l'État. Ce n'est pas bien. Je pense que le Niger doit renaître.
Et vous allez changer cela. Donc, pour finir avec vous, Monsieur Adani, quelle est votre analyse? Donc, pourquoi, selon vous, autant de constats amers sur la situation actuelle du Niger?
Nous avons un système au Niger qui est hyper politisé. Nous, à Génération de Bara PJP, nous pensons qu'il faut d'abord faire la politique autrement. Pourquoi faire la politique autrement? Oui. Parce que nous avons aujourd'hui une classe politique nigérienne qui est devenue un véritable obstacle au développement économique du pays. Mmh. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale qui le dit. Mmh. Donc, il faudrait revoir cela. Il faut que la classe politique nigérienne soit véritablement au service de la nation et non considérer que c'est à la nation de servir la classe politique. Il faudrait que notre administration soit véritablement dépolitisée et qu'on remette le mérite au centre des fonctions administratives.
Merci à vous donc, chers invités. Monsieur Hamidou Garba, le directeur national de campagne du parti RPP Farilla, qui représente d'ailleurs le candidat Alba Oumarou. Monsieur Adani Ilo, il est également le directeur national de campagne, lui adjoint du parti PJP Génération Toubara, qui représente le candidat, le général à la retraite Salou Jubo. Autant donc de propositions, autant de défis à relever par ces candidats. C'est ici donc que prend fin cette émission. Nos remerciements à l'endroit de ces deux invités. Je rappelle que nous avons invité le parti Rana qui n'a pas envoyé de représentant. À la technique, donc, c'était Issa Kalawali, à la modération Nafissa Adam Sifo. À très bientôt sur le studio Kalongo.